tradition, chers pèlerins, vous participez au pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, dont l'un des trois piliers fondateurs est la tradition. C'est un mot qui revient souvent dans l'actualité. On parle des tradis, du monde traditionnaliste, de la messe traditionnelle, etc. Mais ces notions sont souvent embrouillées, et cela n'aide pas à avancer en vérité. Alors, prenons le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. La tradition dont nous parlons ici s'écrit avec un grand T. Elle ne doit pas être confondue avec les traditions humaines, par exemple les traditions culturelles, même s'il y a un lien entre les deux. D'une manière générale, le mot « tradition » vient du latin « tradere » qui veut dire « transmettre ». Une tradition, c'est un contenu, par exemple un héritage, un art, qui se transmet de génération en génération. Mais la tradition avec un grand T a une double particularité. Son contenu est d'origine divine, c'est la révélation. Son moyen de transmission est surnaturel, car c'est l'Église qui a pour mission de transmettre de façon continue la révélation avec une assistance spéciale de Dieu. La révélation. Pour bien le comprendre, partons du début. Nous avons une destinée extraordinaire. Voir Dieu face à face, participer à sa béatitude. Mais cette destinée est tellement haute que Dieu a choisi de se révéler aux hommes afin que les hommes connaissent cette destinée et surtout les moyens pour y parvenir. Cette révélation qui commence dès l'Ancien Testament culmine avec Jésus-Christ, Verbe de Dieu, Parole de Dieu dans le Nouveau Testament. L'ensemble de ces vérités révélées s'appelle le dépôt de la foi. Dans son contenu, ce dépôt est achevé à la mort du dernier apôtre. Aucune révélation nouvelle, publique, n'est à attendre. Aucune vérité nouvelle n'est à ajouter. Et le rôle fondamental de l'Église est de garder, de transmettre et d'expliquer ce dépôt de la foi. C'est une question de salut des âmes. Il faut que le message du Christ parvienne à toutes les générations, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Écriture sainte et tradition. Cette transmission du dépôt révélé se réalise par deux grandes voies. Par l'écriture sainte, inspirée par Dieu, par la prédication orale, la foi de l'Église, les pratiques de l'Église, l'ordre sacramentel, la liturgie. C'est cela, distingué de l'écriture sainte, qu'on appelle la tradition au sens strict. Par la tradition orale, la foi de l'Église, les pratiques de l'Église, l'ordre sacramentel, la liturgie. C'est cela, distingué de l'écriture sainte, qu'on appelle la tradition au sens strict. Écriture sainte et tradition jaillissent de la même source. Elles transmettent aux hommes le même dépôt de la foi, mais par deux voies distinctes et complémentaires. L'écriture sainte ne doit pas être déconnectée de la tradition. D'une certaine manière, la transmission orale des paroles du Christ a précédé la rédaction des livres du Nouveau Testament. Si bien que l'écriture sainte n'est justement interprétée que dans la tradition de l'Église. C'est là un point de désaccord très important avec les protestants qui s'attachent à l'écriture seulement, sola scriptura, sans l'aide de la tradition et du magistère pour l'interpréter justement. Conséquence, il y a aujourd'hui de multiples variantes et subdivisions chez les protestants, avec des doctrines parfois totalement contraires, alors qu'il n'y a qu'une seule Église catholique, unie par une seule et même foi. Les différents organes de la tradition, le rôle de garder, de transmettre et d'expliquer ce dépôt de la foi appartient en premier lieu et principalement au magistère de l'Église, c'est-à-dire au pape d'abord et aux évêques en communion avec le pape ensuite. Ils continuent l'Église enseignante. Ils ont une autorité magistérielle qui vient directement de Dieu. À certaines conditions bien précises, le magistère de l'Église peut être revêtu de l'infaillibilité dans son enseignement. Dans ces cas, il ne peut pas se tromper. C'est le cas, par exemple, de la proclamation d'un dogme par le pape ou des déclarations et condamnations de certains conciles. Cependant, on ne saurait limiter ce rôle au pape et aux évêques seuls, sous la vigilance paternelle de l'Église enseignante, il appartient aussi à d'autres acteurs secondaires de transmettre le dépôt, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, les prédicateurs, les écrivains approuvés. Parmi eux, l'Église a tout spécialement reconnu le rôle éminent de saint Thomas d'Aquin. Il ne faut pas négliger aussi le rôle des fidèles et des laïcs. En raison de la présence de la foi théologale en eux, il leur appartient de conserver et de transmettre ce dépôt de la foi en la vivant et en la proclamant par le témoignage de la foi. En eux, la foi agit comme un instinct intérieur qui les fait incliner dans le sens de la vérité, au moins par une capacité de refuser ce qui contredit la vérité, de sentir l'erreur et de sentir l'erreur. Et collectivement, lorsque le peuple chrétien est accordé sur une vérité perçue comme révélée, il jouit aussi d'une infaillibilité. C'est l'infaillibilité in credendo ou le sensus fidelium. Mais attention, l'exercice de ce sensum fidelium n'est jamais indépendant. Il requiert la fidélité au magistère permanent de l'Église. Là encore, la doctrine protestante avec le libre examen s'écarte de la doctrine catholique. C'est pourquoi il n'a rien à voir avec des possibles revendications de fidèles, même nombreux, voire majoritaires, qui, au nom du progrès, voudraient faire changer les constitutions divines, infaillibles de l'Église, comme on le prétend aujourd'hui avec une fausse conception de la synodalité. C'est pourquoi, également, jamais une partie de l'Église ne pourra se proclamer être la tradition, indépendamment de l'Église enseignante constituée du pape et des évêques. La tradition est-elle figée? Le dépôt de la foi est immuable dans son contenu. Depuis la mort du dernier apôtre, il n'y a aucune nouvelle vérité à ajouter. Ce dépôt contient des éléments explicites, bien clairs pour tous, depuis les premiers temps de l'Église, mais aussi des éléments implicites, des vérités qui vont être de mieux en mieux comprises par le peuple chrétien et expliquées par le magistère. Ces vérités sont dans le dépôt divin depuis l'origine, mais ne seront manifestées que plus tard, sous l'assistance du Saint-Esprit. Donc, on peut dire qu'il y a de nouveaux dogmes, de nouvelles définitions, mais pas de nouvelles vérités. On peut citer par exemple le dogme de l'Immaculée Conception, proclamé en 1854, de l'Assomption en 1950, ou certains points concernant l'Eucharistie définitivement expliqués par le Concile de Trente. C'est ce que l'on appelle le développement homogène du dogme. Mais une fois qu'une vérité de la foi a été présentée et expliquée par le magistère authentique et infaillible, c'est définitif. L'explication fait désormais partie de la tradition. Le chrétien est tenu d'y adhérer une fois pour toutes et ne peut s'écarter du sens défini par l'Église, même si des approfondissements sont toujours possibles. On le voit, être traditionnel au sens catholique, ce n'est pas forcément dire « c'était mieux avant, plus je remonte dans le passé, plus je serai traditionnel ». Ce n'est pas forcément dire « c'était mieux avant, plus je remonte dans le passé, plus je serai traditionnel ». C'est une tentation facile dont il faut se prémunir, tout comme il faut résister à la tentation de croire que ce sera mieux demain. Et il faut tristement reconnaître que cette tentation d'un retour aux sources, a été très forte à la suite du Concile Vatican II. Beaucoup souhaitant balayer 2000 ans d'approfondissement de la tradition, notamment par rapport aux dogmes eucharistiques, en s'émancipant d'un magistère jugé trop contraignant comme celui du Concile de Trente, pour revenir à la pureté des évangiles. Ce refus du développement homogène du dogme est une incompréhension de la tradition. Il a été à l'origine d'un vent de folie qui a troublé de nombreux fidèles et qui malheureusement reste encore présent dans certaines parties de l'Église aujourd'hui. L'Église peut-elle faillir dans son rôle de transmettre la foi? La réponse doit être pour nous immédiatement non. L'Église catholique a reçu une promesse fondamentale, l'assistance continue du Christ et du Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps, qui lui assure de ne pas défaillir dans son rôle de transmettre la foi. C'est le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Même si l'Église est indéfectible, il faut se rappeler que le pape et les évêques ne jouissent pas en tout de l'assistance infaillible. Ils peuvent tomber dans l'erreur dans leur enseignement quotidien non infaillible. Ils peuvent aussi, hélas, rester dans le silence face à des erreurs manifestes qui se répandent. On ne doit pas oublier l'attitude de la quasi-totalité des évêques face à l'hérésie arienne, ou le cas du pape Honorius Ier, condamné par le troisième concile de Constantinople pour avoir favorisé l'hérésie. Cela ne doit pas mieux faire naître en nous une défiance a priori envers le magistère, mais nous encourager, au contraire, à prier comme le Christ le fit lui-même pour le pape et les évêques, afin qu'ils persévèrent dans leur rôle de nous confirmer dans la foi. Par ailleurs, il serait faux de penser que ce que dit l'Église aujourd'hui est toujours plus clair ou plus complet que ce qu'elle disait hier. L'intégralité du dogme n'est pas toujours transmise de façon égale et lumineuse à chaque moment de l'histoire. D'une part, les actes du magistère à un moment donné sont dictés par les circonstances et les opportunités historiques, se focalisent sur un aspect ou sur un autre, D'autre part, la présentation du dogme peut être rendue plus confuse à une certaine période parce que les outils utilisés pour le présenter, instruments humains, philosophiques, culturels, sont plus faibles, voire déficients. Ce serait donc une erreur d'avoir une approche de la tradition qui se réfère exclusivement à l'enseignement actuel ou récent. La valeur doctrinale d'un enseignement de l'Église n'est pas déterminée par sa date. En ce sens, le symbole de Nicée en 325 ou les décrets du Concile de Trente en 1563 sont des éléments de la tradition totalement indépassables. En un mot, le concept de tradition demande de regarder la vie de l'Église dans sa continuité à travers le temps. L'Église ne peut pas être en rupture avec elle-même. Un acte du magistère s'inscrit dans le courant de la tradition antérieure. Il doit toujours être interprété à la lumière de la tradition antérieure. Des interprétations qui contrediraient le magistère antérieur, comme celles qui se sont multipliées après le Concile Vatican II, doivent être refusées comme n'étant pas catholiques. Les monuments de la tradition et la liturgie. En plus de l'écriture sainte, la tradition a pris corps dans ce qu'on appelle des monuments de la tradition, c'est-à-dire dans des œuvres qui nous donnent un accès permanent au dépôt de la foi, comme des écrins protégeant un joyau. Parmi les plus importants, on doit citer les écrits des pères de l'Église, surtout s'ils sont unanimes entre eux. Les actes et les écrits des papes et les conciles, la discipline de l'Église, sa vie intime, ses institutions, et surtout la sainte liturgie. À son sujet, écoutons Don Guéranger. C'est dans la liturgie que l'esprit qui inspira les écritures sacrées parle encore. La liturgie et la tradition même à son plus haut degré de puissance et de solennité. Oui, il y a un lien fondamental entre la tradition et la liturgie. D'une part, la liturgie de l'Église remonte de façon ininterrompue jusqu'aux apôtres, à ceux qui ont reçu les premiers le dépôt de la foi. D'autre part, la liturgie conserve et transmet la foi de l'Église. Elle a une valeur doctrinale. À travers elle, on a un accès permanent au dépôt de la foi, d'où l'adage bien connu, lex orandi, lex credendi. Ainsi, même si elle a été composée en partie par des hommes, la liturgie n'est pas qu'une simple tradition humaine qui peut changer en fonction des époques. C'est pourquoi l'Église s'est toujours attachée à maintenir les rites anciens et les coutumes qui pouvaient prétendre à l'antiquité et à la durée. Mais la liturgie, comme la tradition, n'est pas fixiste. Elle vit tout spécialement pour accompagner le processus du développement du dogme. Le rajout de l'élévation au milieu du canon, qui n'apparaît qu'au XIIIe siècle, ou des prières de l'offertoire au Xe siècle, en sont de beaux exemples. Préserver, conserver et transmettre ces monuments de la tradition, c'est aussi cela l'esprit traditionnel de l'Église, puisque ces monuments nous donnent un accès permanent au dépôt de la foi, conservé, intact et approfondi, sous l'assistance divine, tout au long des siècles, depuis les apôtres. C'est pourquoi, par exemple, l'enseignement doctrinal du Concile de Trente a une autorité permanente et pas seulement pour son époque. C'est pourquoi il est strictement impossible pour l'Église d'abolir ou d'interdire la liturgie tridentine, comme le cardinal Ratzinger le rappelait. Comme véhicule particulièrement éminent du dépôt de la foi, elle demeure de façon permanente une source de bien spirituel et une voie de sanctification à part entière. Enfin, à côté de la tradition avec un grand T, qu'on appelle aussi tradition divino-apostolique, il existe aussi dans l'Église catholique des traditions qui ne proviennent pas directement de Jésus-Christ, mais d'un apôtre ou de l'autorité ecclésiale, ou même des fidèles eux-mêmes, traditions populaires. C'est le cas de certaines coutumes ou dévotions, comme le fait de conserver la Sainte Eucharistie, de l'adorer publiquement, de faire des processions, des rogations. On peut aussi citer le signe de la croix, l'eau bénite, le chapelet. Ces traditions, surtout lorsqu'elles sont éprouvées par le temps et approuvées par l'Église, façonnent l'être historique de l'Église. Et elles appellent de notre part une réponse de piété filiale, c'est-à-dire une grande vénération et un grand respect. Elles expriment la mémoire du peuple chrétien, elles sont un héritage qui façonne notre identité chrétienne. Elles sont un patrimoine spirituel et temporel, précieux, qui porte notre foi. Ce serait ignorer la condition historique de l'homme que de les rejeter ou de les mépriser, comme cela se fait malheureusement depuis les années 1960, sous prétexte qu'on ne faisait pas comme cela au début du christianisme. Ces traditions, tout comme cette piété populaire, ont une force missionnaire très puissante, car elles ont imprégné la culture des sociétés, au point qu'elles sont pour beaucoup le premier lieu d'accès à Dieu et à la révélation. S'il ne faut pas leur donner le même degré d'autorité qu'à la tradition divine elle-même, l'attitude normale du catholique est de recevoir ces traditions filialement et de chercher à les faire vivre, car elles aussi sont des vecteurs de la foi. Crise de l'Église et traditionnalisme. Depuis une soixantaine d'années, il y a une crise dans l'Église qui touche à la transmission de la foi. Le cardinal Ratzinger évoque ce vertige qui a suivi le Concile Vatican II, cette impression que rien n'était stable dans l'Église, que tout était à revoir, on pouvait, semble-t-il, modifier la foi, contrairement à tout ce que l'on avait pensé jusqu'alors. Au nom d'un fallacieux esprit du Concile, des interprétations erronées de certains passages ambigus du texte conciliaire se sont multipliées. L'Église d'avant était fortement critiquée, des thèses modernistes réapparaissaient sans être condamnées par l'autorité. Aux yeux de beaucoup, le Concile Vatican II est vécu comme une révolution doctrinale. Paul VI lui-même a décrit cette crise par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. On croyait qu'après le Concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église. Mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Comment cela a-t-il pu se produire ? Une puissance adverse est intervenue, dont le nom est le diable, cet être mystérieux auquel saint Pierre fait allusion dans sa lettre. Face à ces bouleversements qui touchaient à la foi elle-même, certains catholiques, prêtres et laïcs se sont mobilisés. Citons Jean Madiran, le père Calmel, l'abbé Berthaud, Monseigneur Lefebvre. C'est ce qu'on appellera le courant traditionnaliste. Il est important de dire que cette réaction commence bien avant la réforme liturgique. il s'agissait d'abord de défendre le catéchisme traditionnel, c'est-à-dire un catéchisme qui transmette l'intégralité du dépôt de la foi, contre des catéchèses qui remettent en question ou suppriment des pans entiers de la doctrine, comme la doctrine autour du péché, des fins dernières, de l'unicité du salut en Jésus-Christ, du règne social du Christ, de la vénération due au Saint-Sacrement. La critique de la réforme liturgique arrive dans un second temps, en 1969. Prenons bien garde à bien situer à quel niveau se place cette critique. L'Église catholique ne peut proposer à ses fidèles un rite qui serait hétérodoxe ou intrinsèquement mauvais par nature, car alors elle faillirait dans sa mission de sanctifier. Il faut reconnaître la validité de la liturgie réformée lorsque les éléments essentiels du sacrement, matière, forme, intention du célébrant, sont présents, ainsi que sa capacité à transmettre la grâce. Cependant, il se peut que l'Église, à tel ou tel moment de son histoire, produise des éléments liturgiques qui soient déficients. Pie XII l'affirme explicitement, et le cardinal Ratzinger parlait des carences de la réforme. Or, il y a lieu d'émettre des réserves sérieuses sur un appauvrissement de l'expression liturgique de certaines vérités de foi dans le Novus Ordo, ou de critiquer la façon dont s'est réalisée la réforme, qui tient plus de la construction que de l'évolution organique selon les analyses du cardinal Ratzinger lui-même. À l'instar de Benoît XVI, la crise de l'Église que nous vivons aujourd'hui repose largement sur la désintégration de la liturgie, car le croyant finit toujours par croire comme il prie, lex orandi, lex credendi. Le mot traditionnaliste a été forgé dans ce contexte de crise. C'est une étiquette qui ne plaisait pas d'ailleurs aux grandes figures de ce mouvement, comme Jean Madiran, parce qu'un catholique est nécessairement attaché à la tradition de l'Église. Ce mot décrit simplement cette volonté de beaucoup de familles catholiques de conserver fidèlement ces monuments de la tradition que sont la liturgie tridentine, le catéchisme traditionnel, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, le magistère permanent de l'Église, contre ceux qui prônent une rupture entre l'Église d'aujourd'hui et l'Église d'hier, ou ceux qui laissent faire cette rupture sans rien dire. À cela s'ajoute sans confusion une piété et un attachement envers les traditions de l'Église dans lesquelles, au cours des siècles, s'est incarnée la tradition. Car nous ne sommes pas encore sortis de la crise et de la confusion, comme l'actualité religieuse en donne de nombreux exemples. Il est donc légitime d'appliquer le principe de précaution, aller au plus sûr pour transmettre la foi, c'est-à-dire aller aux pédagogies traditionnelles éprouvées par l'Église catholique depuis 2000 ans. En revanche, ce mot traditionnaliste serait erroné s'il est utilisé pour dire que seule une partie des chrétiens constitue la tradition. Ces expressions sont dangereuses, car la tradition est constitutive de l'Église. C'est la conséquence de l'indéfectibilité de l'Église en laquelle nous croyons. C'est donc pour l'Église catholique, notre pape et nos évêques, qu'il faut prier pour que la crise de la transmission de la foi cesse et que continue l'effort de clarification sur la doctrine et la morale mené par exemple par Jean-Paul II et Benoît XVI pour le bien de l'Église et le salut des âmes. Que m'importe donc le passé en tant que passé? Ne voyez-vous pas que lorsque je pleure sur la rupture d'une tradition, c'est surtout à l'avenir que je pense. Quand je vois se pourrir une racine, j'ai pitié des fleurs qui demain sécheront faute de sève. Rappelez Gustave Thibon.